Bonjour et bienvenue de l'été 2014. Je suis Marie-Annelle, votre hôtesse de soir. Et avant de commencer, je voudrais vous avertir qu'en écoutant cette conférence ou son enregistrement, vous acceptez d'être responsable de votre bien-être personnel. L'EFT est un outil à la fois simple et très puissant, dont les résultats varient naturellement d'une personne à l'autre. Les témoignages avancés lors de cette conférence ne constituent pas une garantie que vous aurez les mêmes résultats pour vous. Consultez toujours votre médecin traitant ou un spécialiste en cas de problème médical dans son domaine de compétence. La conférence de ce soir s'intitule « Honorer qui je suis avec l'EFT ». À travers sa pratique de psychologue, notre conférencier veut nous montrer ce soir comment l'EFT favorise l'accès à différents aspects de soi, que nous pouvons prendre en considération grâce aux liens de confiance qui s'établissent entre le thérapeute et son patient. À travers d'exemples cliniques, il nous parlera du déni de soi, comment nous intériorisons un modèle qui nous dessert et nous montrera comment on peut contourner cet obstacle sans entrer en conflit avec cet aspect de soi qui est parfois vécu comme une identité. À travers des cas concrets de sa pratique, il nous expliquera comment l'EFT favorise l'accès à des mémoires et à des vécus de détresse. Il nous donnera les clés de l'EFT afin d'honorer un moment qui a pu être occulté dans sa vérité émotionnelle, et cela au profit d'un jugement ou d'une négation de l'émotion du choc de la souffrance, afin de déployer une force de vie apaisante. Mon invité ce soir est psychologue clinicien, psychothérapeute et expert EFT à Lyon. En tant que praticien libéral et praticien dans une clinique spécialisée dans le traitement de la dépression, son expérience de l'EFT se calcule en milliers d'heures. J'ai le plaisir de vous présenter Laurent Hersant. Bienvenue Laurent.
Bonsoir, merci Maria.
Alors, pourquoi ce sujet « Honorer qui je suis » ?
Alors, pour expliquer un petit peu pourquoi j'ai choisi ce sujet, je vais peut-être commencer par expliquer ma rencontre avec l'EFT, hein, comment elle s'est inscrite pour moi. Je travaille depuis plus de 15 ans en tant que psychologue et psychothérapeute dans une clinique psychiatrique et en cabinet. Et je reçois des personnes ayant souffert de dépression ou souffrant encore de dépression. Ma pratique et ma recherche personnelle m'ont conduit à m'orienter vers des thérapies centrées sur les émotions. Ça a été plus quelque chose pour moi qui m'intéressait, où je sentais que là je pouvais être efficace parce que ma sensibilité était plus, on va dire, affinée dans les relations aux émotions. Et puis pour le travail sur moi, je sentais que c'était le biais qu'il fallait choisir. Donc dans le cadre de mes activités professionnelles, il m'a été toutefois difficile d'appliquer toutes les formations que j'avais suivies, où les mêmes types de thérapies que j'avais pu pratiquer n'étaient pas des modèles valables pour des personnes qui souffraient de dépression, qui n'étaient pas forcément des possibilités d'échanger par le langage, ou qui étaient trop fragiles ou trop fragilisées pour pouvoir aller dans des thérapies, trop mobilisantes. Il fallait plutôt prendre des biais un peu plus doux. Bien sûr, tout ce que j'ai pu faire, l'hypnose, la PNL, l'approche psychocorporelle, même la psychanalyse, la relaxation et d'autres encore, le MDR notamment, m'ont beaucoup aidé. Mais je sentais une limite, c'est-à-dire que j'attendais quelque chose qui me permette d'aller un peu plus loin dans l'accueil et dans le suivi de mes patients. Et puis aussi pour moi, parce que malgré tout, il m'arrivait souvent de dire « tiens, j'aide », mais moi il me manquait quelque chose, et je cherchais aussi un outil qui me permette d'aider, donc, avec lequel je puisse être autonome. Et c'est à ce moment-là que, par hasard, au cours d'une lecture sur une mailing list de professionnels, je vois un petit mot où il y a écrit... Un praticien écrit « Essaye l'EFT ». Il dit ça à un collègue qui est un petit peu en train de ramer, qui n'arrive pas à aider ses clients sur une problématique spéciale. J'ai noté cela hein, quelque part. Ça venait à moi tout seul. Je dis « Tiens, il n'y a peut-être pas de hasard ». Et puis, j'étais sur Internet. J'ai téléchargé le manuel de Gary Gregg. Première surprise, c'était gratuit. Je vais ensuite voir les vidéos. Bon, c'était des espèces de miracles, des cris, j'avais l'impression de visite est presque lourde. Je dis, bon, qu'est-ce qui se passe? Bon, toutefois, j'ai une relation avec les pratiques anglo-saxonnes assez ouverte parce que je trouve qu'elles me sont beaucoup apportées, notamment au niveau des thérapies brèves, les thérapies systémiques, etc. Donc, je ne vais pas faire le détail là ce soir. Donc je suis resté quand même ouvert d'esprit. Je me suis dit, bon, allez, lâche tes a priori, on ne sait jamais. Mais j'ai quand même laissé ce livre de Gary Gregg sur mon disque dur à peu près pendant un an. Et puis, j'ai rencontré un collègue qui travaille juste à côté de mon bureau. Il me dit un jour, dans le couloir, est-ce que tu connais l'EFT? Alors, évidemment, j'avais tâté le terrain auprès de deux ou trois professionnels pour savoir ce qu'ils en pensaient. Personne ne me connaissait. Donc, je suis allé dans son bureau. Il m'a fait un protocole d'EFT sur un souvenir que j'avais choisi, bon, un peu banal. Ça n'a rien fait sur moi. Je me suis dit, bon, de toute façon, c'est classique chez moi. Je suis assez résistant aux thérapies. Je pense que je dois être... peut-être dans le contrôle, vouloir bien faire, etc. Donc j'ai dit, ok, je sais que ça, c'est pas pour ça que ça ne marche pas. J'ai essayé sur ma collègue, pour qui ça a marché. Après, j'ai proposé à des patients s'ils voulaient bien essayer un truc avec moi, que j'étais en train d'apprendre, et j'attendais leur expertise. J'ai eu des bons retours d'eux. Toutefois, à un moment, je me suis un peu, j'ai donc commencé à le faire un peu plus sur moi, d'une manière un peu plus systématique. J'ai lu le livre de Gary Gregg, bien sûr. Donc, j'ai commencé à faire tous les souvenirs que j'avais pu ou cru traiter par d'autres approches, de d'autres techniques, souvenirs d'enfance, souvenirs d'adolescence. Je passe les détails. Et je faisais ça entre chaque patient, le soir, en permanence. Je tapotais. Et parfois, j'avais au cours d'un tapotement rien. Et une demi-heure après, en faisant autre chose, la cuisine par exemple, j'avais un souvenir qui me revenait, qui me paraissait être en association. J'ai compris que c'était une association qui se passait, et sur un mode un peu différent de ce que j'avais pu rencontrer jusqu'à maintenant. Par exemple, c'était peut-être une sensation corporelle, une tristesse, ou même une joie qui apparaissait. Alors du coup, je me dis, il y a quand même quelque chose d'important là-dedans, mais je me sentais pas vraiment légitime, parce que j'ai aussi ce moule qu'on doit faire une formation pour pouvoir pratiquer. Hein. J'ai une formation universitaire, j'ai fait plein de formations, j'ai essayé plein de choses, et là je me suis dit, non, t'es pas légitime, faut être sûr de bien faire les choses. Alors, je me suis inscrit à un premier stage de EFT avec Jean-Michel Curé. Et là, j'ai commencé à travailler de façon très intéressante, c'est-à-dire qu'il m'a montré vraiment le protocole, ça m'a rassuré. D'abord, il ne m'a pas jugé parce que j'avais commencé à faire les choses sans faire de formation, bien au contraire, il m'a encouragé. Et puis, après quoi, j'ai refait d'autres formations aussi pour aller plus loin avec Louise Gervais, hein, qui est une vraie artiste EFT, parce qu'elle a des années de pratique. Et là, je crois que ma pratique s'est vraiment libérée. J'ai pu notamment découvrir dans des douleurs chroniques à une épaule qu'il y avait un conflit familial qui était là, stocké, et qui s'est en tout cas fixé sur cette épaule. Et j'ai vu à quel point ça pouvait être puissant comme approche. Et donc après, je l'ai partagé d'autant plus facilement avec mes patients en leur demandant toujours leur expertise. C'est-à-dire, nous allons essayer ensemble. Et si je partage cette rencontre avec vous, c'est pour vous dire que les seuls experts, c'est vous tous. Qui nous écoutez, car cette technique procède d'une transmission horizontale, c'est-à-dire c'est comme une tradition orale moderne, comme dirait Louis Gervais, que nous pouvons tous partager. Et j'espère ce soir pouvoir partager quelques clés qui ouvriront les portes, comme elles ont été ouvertes par les formateurs et les précédents congrès. Pour cela, je vous parlerai de la consultation et de ce qui s'y passe, puis nous aborderons les mécanismes psychologiques qui se mettent en place dans la dépression, ou des vécus douloureux à travers des exemples qui illustrent le déni de la détresse éprouvé alors. Puis je tenterai de donner une explication de pourquoi l'EFT est pertinente dans de tels mécanismes, pour enfin terminer par la proposition de s'honorer dans tous les aspects de soi.
Beau programme, Laurent. Alors, pour commencer, au fond, pourquoi vient-on voir consulter un psychologue?
Ouais, ça c'est une bonne question, parce qu'on nous la pose souvent. Pourquoi venir voir un psychologue? Alors bon, j'ai un peu expliqué ce qui se passe. Les personnes qui viennent nous voir, en général, sont en souffrance. D'un mal-être, d'une envie de changer, ont une demande, une envie de changer quelque chose dans leur vie, ou ils ont un questionnement sur eux-mêmes, ils ont pu avoir un choc récent, le médecin a pu les envoyer pour justement essayer d'amoindrir les conséquences du choc. Parfois même ce sont des amis, la famille, un conjoint qui dit là, il faut vraiment que tu fasses quelque chose, qui va pas bien. Dans ce cas-là, de toute façon, quel que soit le contexte, il y a toujours un premier contact, une première rencontre qui est très importante, parce que c'est pendant ce moment-là que nous allons aborder les raisons de la première prise de rendez-vous. Le premier contact se passe déjà par un bonjour, un accueil, et par la possibilité d'établir un climat de confiance. En tout cas, c'est ce à quoi moi je m'attache, et je pense que c'est la plupart d'entre nous, c'est ce à quoi nous nous attachons à un accueil. Alors parfois les gens viennent en attendant quelque chose de particulier, ils ont entendu parler de l'EST, ils ont parfois un peu une baguette magique. Moi je commence toujours par écouter la souffrance, c'est-à-dire enfin demander les raisons qui viennent et expliquer un petit peu ce que je comprends, hein, ce que je peux saisir, moi pendant le premier, deuxième, troisième entretien, cette dynamique particulière qui fait qu'ils souffrent là, car très souvent les personnes rejettent cette souffrance ou ne comprennent pas pourquoi ils ont tel ou tel comportement qui ne leur convient pas ou qui ne leur convient plus aujourd'hui. Et j'aime bien aussi leur envoyer que c'est logique dans ce développement-là qu'il y a eu forcément de bonnes raisons pour favoriser déjà un accueil d'eux-mêmes. Mmh. Même que ce soit au moins entendu quelque part, même si ce n'est qu'intellectuel et qu'au niveau émotionnel, j'ai pas, ils ne soient pas d'accord. Ça, c'est OK, hein, c'est comme ça.
Et est-ce que dans ton expérience, quand ils viennent comme ça, est-ce que leur demande est toujours claire pour eux?
Non, ça peut être parfois très flou. Ils peuvent pas vraiment savoir ce qui se passe. Il peut y avoir un mal-être, des sensations, quelque chose qui est pas, qui a besoin d'être un petit peu mis en travail, mis en lien.
Et ça, c'est aussi ton rôle.
Et là, c'est aussi notre rôle de voir ce qui se passe aussi, et puis peut-être d'éclairer s'il y a vraiment un besoin. Et d'honorer ce besoin, hein, mm-hmm. s'il est là ou pas. Et peut-être même d'honorer le fait qu'il n'y en a pas besoin. Ça m'est arrivé d'avoir des personnes qui viennent, je pense que ça nous arrive tous, qui sont persuadés qu'ils doivent aller voir un psy. Malgré tout, ils vont plutôt bien. Et une autre consultation.
Vous allez trop bien.
Voilà. Voilà. Et ça arrive, heureusement.
Ouais.
Alors, pour illustrer un peu comment je fais un petit peu pour accueillir un patient, je vais peut-être prendre simplement l'exemple d'Oscar.
Mm-hmm.
Je prends cet exemple-là parce que alors, c'est un exemple d'une personne que j'ai suivie dans le cadre de mon activité institutionnelle en clinique. C'est pas un patient que je suivais, c'est un patient que j'ai juste vu quelques séances très courtes. Il avait été adressé par le psychiatre, un des psychiatres avec qui je travaille. Il est suivi à l'extérieur, où il a un très bon lien avec son psychanalyste, dont il est très satisfait. Sauf que il a des attaques de panique. Et donc, je fais de l'EFT, on a dit, tiens, peut-être que ça va soulager ce monsieur. J'ai commencé d'abord par lui demander de me parler de l'origine, de la première fois où il avait pu avoir cette attaque de panique, car très souvent, on s'en souvient de cette attaque de panique. Hein. Ça peut parfois prendre un petit peu de temps. Dans ce cas-là, ce monsieur l'avait eu dans un internat. Il avait à peu près, je crois, 12 ans. Il venait d'être mis en internat alors qu'il était, il vivait dans les Alpes, tranquille, dans une école où tout se passait bien, avec une famille très soudée, de très bons liens, une famille très aimante, très contenante. Et il s'est retrouvé, il était très libre, hein, il racontait, dans la nature, on allait se balader. Il avait beaucoup de confiance et là il se retrouve dans un lieu où il est plutôt enfermé, dans lequel il y a beaucoup de règles et dans lequel il y a un dortoir collectif avec où toutes les générations sont mélangées. C'est-à-dire qu'il se retrouve aussi bien avec des adolescents qui ont 5-6 ans de plus que lui. Évidemment, il y a comme un décalage. Il y a forcément les petits jeux, hein, enfin, je parle d'un internat d'il y a 50 ans. Donc on peut imaginer les règles strictes qui étaient à l'œuvre à l'époque, où il n'y a aucune place. Ni pour les émotions, ni pour l'affect. Or, Oscar, qu'est-ce qui se passe pour lui à ce moment-là? Il se sent seul, il se sent abandonné, il a des sensations qui commencent à arriver dans son corps, qui lui disent « il y a quelque chose qui ne va pas, je vais pas bien », sans trop pouvoir les exprimer, parce que de toute façon, elles ne seront pas accueillies. Donc, il a raison de ne pas les exprimer. Elles ne seraient pas accueillies, et ça risque d'entraîner des brimades.
Ça va même le mettre en danger, encore plus.
Encore plus. Donc, ça, c'est pertinent, son mécanisme de défense. Toutefois, il est tellement, quelque part, refoulé, cette peur, qu'elle se transforme vraiment, elle est vivante dans le corps, et il y a un moment, le corps dit « non, stop, c'est pas possible ». Et là, il va à l'infirmerie, où, ma foi, il est un petit peu mis de côté, mais au moins un peu plus tranquille. Bon, sa peur est assez logique finalement. Hein, il se sent en danger, son corps se mobilise, je lui dis stop.
Donc ça n'a pas été nommé comme ça, peut-être à l'époque, il n'a pas réalisé que c'était ça, mais c'était une crise de panique.
C'était une crise de panique, il ne l'a pas du tout nommé comme ça. Et en fait, dans ce premier entretien, on va déjà la nommer, et on va déjà l'honorer. Hein. C'est une sensation qu'il a eue dans le corps, une sensation dont il ne savait pas attribuer le sens. Et c'est souvent le cas dans les attaques de panique, je pense que tu seras d'accord avec ça, où on ne sait pas ce qui se passe, on a un débordement de sensations physiques, et avec le sentiment qu'on va mourir. Mais c'est un vrai vécu. Donc le corps se met en alerte, en panique. Il n'y a pas d'émotion, il n'y a pas de cognition ou de pensée particulière. Si ce n'est la pensée de la peur, je suis en danger, je vais mourir.
Ce qui était nécessaire et utile pour Oscar à ce moment-là.
Oui, c'est vrai. Il avait besoin de se mettre quelque part entre parenthèses.
Et ça a continué après pour lui.
Et ça a continué après.
C'est
devenu une sorte d'habitude. C'était comme une première imprégnation, une première empreinte. Et il a continué à se développer avec ça. C'est quelqu'un de très perfectionniste, très brillant, qui a fait de brillantes études, qui a fait une carrière excellente, médicale, qui a donné entièrement satisfaction, je pense, à ses clients, c'est évident. Sauf que lui, c'est toujours un peu oublié, a toujours été un peu en retrait, un peu dans la notion de service, mais moi, je compte pas vraiment. Quand on lui demande d'ailleurs de décrire la situation, que dit-il ? Je suis mal, qui correspond au vécu qu'il a. En réalité, la situation à l'époque, c'est j'étais à tel endroit, on est d'accord, il était dans l'internat, quand on s'est moqué de moi, parce que c'était le cas, j'attendais de rentrer chez moi et de recevoir de l'affection, d'être rassuré. Alors, ça, c'était la vérité d'aujourd'hui, en tout cas qu'on peut mettre en lien. Dans cette situation, Oscar nous parle, dit « je suis angoissé ». Il y a comme une confusion entre la situation et l'émotion qu'il a ressenti et qu'il continue à ressentir dans certaines situations aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est des ressentis, c'est-à-dire des sentis à nouveau de sa première empreinte.
Des rappels de la première empreinte.
Des rappels de la première empreinte, comme des programmes qui se mettent en route, sans qu'il puisse avoir le contrôle. Et plus il essaye d'avoir le contrôle, évidemment, paradoxalement, plus il s'active. Plus ça lui échappe. L'avantage des techniques émotionnelles comme l'EFT, c'est qu'elles ont la faculté de défusionner le trauma. Des faits. Nous allons demander c'est quoi l'image, pendant l'entretien préalable avant de pratiquer une ronde EFT, nous allons demander c'est quoi l'image, c'est quoi ce que vous dites, où est-ce que vous le sentez dans votre corps. C'est une première mise en relation avec le moment, un lien entre le passé et le présent, mais on le réinterroge. Et dans un soin EFT, dans ce cas, on va donc mobiliser le corps avec des tapotements. On va identifier peu à peu des émotions qui émergent, ou les pensées, pour faire face à cette détresse non prise en considération aujourd'hui comme hier. Cela peut parfois prendre un peu de temps. Je prends comme exemple ce cas de figure, car même si l'EFT est une technique de thérapie brève, il faut prendre aussi du temps pour comprendre. Très souvent, nous recevons des personnes qui ont eu des séances EFT ou d'autres techniques de soins, où il a été oublié d'expliquer que nous ne soyons pas un traumatisme, mais nous prenons soin d'un vécu. Ça, c'est vraiment important et c'est essentiel. C'est l'éthique de notre métier. Je pense aussi au cas des violences ou d'abus où la personne se sent coupable et responsable de l'acte qu'elle a subi. Bien sûr, on sait que c'est pas vrai, mais il est important de considérer cela d'abord, car c'est sa réalité subjective. Et le premier aspect à traiter, quand on commence par exemple avec délicatesse à proposer, et ça on peut peut-être pas le faire dès la première séance, ça peut arriver, mais pas toujours, même si j'ai de bonnes raisons de me sentir coupable de cette relation difficile avec un parent, je m'ouvre la possibilité de m'aimer, la personne se sent enfin reconnue dans sa réalité subjective, puisque c'est comme cela qu'elle la pense. Et on est là pour accueillir ce qu'elle pense et ce qu'elle ressent.
Alors, plus précisément, Laurent, quelle est la place des émotions dans ce type de travail?
Oui, alors, nous avons parlé de la souffrance d'Oscar. Nous aurions aussi pu parler de souffrance au travail ou dans la famille. Qu'est-ce qui est bien souvent au cœur de cette souffrance psychologique? C'est une détresse non prise en considération à ce moment-là, avec un cortège d'émotions non exprimées ou non exprimables lors de l'événement et que nous allons ensemble tenter d'honorer.
Comme Oscar qui a eu peur à ce moment-là.
Oui.
Il s'est senti isolé, mais c'était pas possible de le dire.
Non,
c'était pas possible que ce soit pris en considération.
C'était pas possible. Au moins aujourd'hui.
Ça a trouvé la sortie que ça a pu.
Ça a trouvé la sortie que ça a pu et au moins aujourd'hui, on peut lui offrir la possibilité de s'honorer en même temps pour le courage qu'il lui a fallu puisqu'il a quand même vécu dans cet internat, il a eu son bac, il a réussi des études brillantes, et voilà, il s'est développé malgré tout. J'ai peut-être un peu parlé des émotions maintenant, sans forcément rentrer trop dans les détails. Souvent, nous les étiquetons comme bonnes ou mauvaises. La peur, l'anxiété, la culpabilité, le désespoir, le dégoût, la honte sont des émotions auxquelles nous souhaitons tous échapper. Je pense que tu es d'accord avec ça.
Oui.
La plupart du temps, les émotions nous sont amenées comme un problème, alors que pour nous, thérapeutes, c'est une expression d'un besoin non satisfait, une détresse non accueillie. En vérité, dans le domaine des psychothérapies, il n'y a pas de bonnes ou de mauvaises émotions. Il y a des émotions agréables, désagréables, voire neutres, qui constituent un langage qui intéresse toutes les facettes de notre être, à savoir nos réactions corporelles, notre manière de penser, notre comportement, etc. Nos émotions, c'est un peu notre sixième sens, en fait. Un sixième sens qui nous renseigne sur notre intérieur en relation avec l'extérieur, c'est-à-dire les autres.
Mmh. Oui, ça a été adressé dans une conférence l'année dernière sur la peur. Les émotions sont là en signal d'alerte.
Oui, et c'est un bon signal d'alerte. On
voilà.
peut remercier l'honorer.
C'est pas parce qu'il y a un voyant qui s'allume qu'on va pester contre le voyant. On va se dire, oups, il doit y avoir quelque chose derrière.
On ne va pas plus descendre de la voiture ou l'arrêter. Voilà, il y a quelque chose d'intéressant peut-être. Mm-hmm. Mais ça, c'est facile à le dire quand on est là dans la position thérapeute. Quand on le vit, je comprends.
Bien sûr.
Ah, c'est pas évident.
Oui.
La rencontre donc, de ces émotions constitue finalement la voie royale de la connaissance de soi. Il faut passer cette a priori de vouloir les rejeter. Enfin, il faut. Nous faisons ce que nous pouvons pour... J'aime pas le « il faut », mais bon, tant pis. En effet, nos émotions, qu'est-ce qu'elles révèlent? Elles révèlent nos désirs, et même ceux que nous ne souhaiterions pas avoir. Elles déterminent nos valeurs, ce qui est important pour nous et qui constitue aussi notre identité. L'approche psychothérapeutique centrée sur les émotions comme l'EFT est simple et profonde. Simple car il concerne des faits concrets. Par exemple, j'ai peur de prendre l'avion, d'avoir une relation, une tristesse ou d'être séparé d'un conjoint. Mais aussi des sensations corporelles, des pensées, des comportements. Profond car il touche à la connaissance de notre intime en s'intéressant à nos valeurs et à nos désirs.
Mmh. Alors en préparant cette conférence, Laurent, nous parlions de cette notion d'émotion. Le mot émotion fait partie de la définition de l'EFT. Technique de liberté émotionnelle, mais au-delà de l'émotion, tu parlais d'une définition intéressante.
Oui.
En fait, c'était une combinaison.
Alors, c'est intéressant parce que j'étais il y a quelques mois avec un thérapeute américain. Je donnerai son nom peut-être dans le pack ou sur le site internet. Il parle de feeling. C'est américain, c'est-à-dire de sentiment. Et dans ce sentiment, il met les émotions, la pensée et l'émotion, la sensation et la pensée.
Ouais.
Il combine ces trois choses-là. Mmh. Et du coup, on ne s'embarque plus trop à savoir est-ce que c'est d'abord la sensation qui précède l'émotion ou la pensée qui crée. C'est un sentiment.
Mais oui.
Et on peut faire. On arrête d'être dans une démarche très intellectuelle où finalement on cherche à comprendre qui précède quoi. Aucun travaux n'est vraiment d'accord là-dessus, enfin peut-être certains, mais en tout cas moi, là où j'en suis de mes connaissances, j'ai bien aimé ce raccourci. Parlons de sentiments, dans ces sentiments il y a l'émotion, la pensée et la sensation.
Oui, ce qui constitue aussi trois portes d'entrée très, très utilisées couramment dans l'EFT.
Dans l'EFT, voilà, on peut activer ces leviers ou aller interroger un petit peu qu'est-ce qui se passe en prenant un biais, l'autre biais, les trois, peu importe en fait, en fonction de ce qui se présente.
Mmh. Alors dans cette souffrance, tu parles d'une composante de déni de soi.
Oui.
Tu peux expliquer ça?
Oui, alors je parle de déni de soi, on peut aussi parler de déni de la tristesse, mais j'ai bien aimé ce terme de déni de soi. Nous observons souvent une relation biaisée dans notre souffrance, à la détresse que nous pouvons ou que nous avons eue. Je recommence ma phrase. Dans la souffrance, nous observons souvent une relation biaisée à la détresse que nous avons eue, car celle-ci n'a pas pu être considérée pendant un événement ou une période de notre vie. Et comme nous étions enfants ou adolescents, nous n'avions pas encore la possibilité de prendre du recul pour attribuer ces moments difficiles et ces circonstances aux interactions non satisfaisantes. Nos besoins d'approbation, de sécurité, de contrôle, d'attachement et même de séparation n'ont pas pu être pris en compte à ce moment-là. Nous attribuons alors nos souffrances, bien souvent, à un dysfonctionnement de nous-mêmes. C'est finalement un mécanisme de défense qui nous permet de donner une cohérence à un environnement affectif dont nous sommes dépendants. J'appelle ce mécanisme le déni de soi, pour faire un peu plus simple. Nous aurons par exemple des personnes qui nous diront dans ce cas-là, je ne sais pas qui je suis, parce que dans l'enfance, ils ne se sont pas forcément sentis reconnus ou accueillis.
Oui, ben ça, je trouve que c'est quand même très courant dans ma pratique et dans ce que j'entends avec d'autres praticiens. Comment ça se fait? Comment ça se fait qu'on souffre autant dans cette enfance?
Alors, je vais prendre un petit peu, je vais nous traiter un peu comme une espèce, tant pis.
Oui. nous sommes
une espèce un peu particulière, nous les humains. En effet, nous mettons de nombreuses années à nous développer, on va dire de 15 à 20 ans, à peu près, aussi bien au niveau psychologique qu'affectif, et peut-être que ça prend aussi toute une vie, en tout cas, c'est comme ça que moi je me considère. Et nous sommes l'espèce, par contre, qui reste le plus longtemps dépendant de nos parents et de notre environnement. Je vais même mettre parents et environnement à peu près sur le même plan. Quelque part, c'est des adultes, c'est peut-être des copains d'école, des copines de lycée, etc. Tout ça, ça fait partie de notre environnement. On pourrait dire presque un parent avec un grand P, j'ai presque envie de pas forcément faire une distinction. Nous avons vu précédemment que nos émotions sont l'expression de nos besoins. Je pense qu'on est d'accord là-dessus. Dans cet environnement, nos besoins vont être satisfaits, reconnus ou pas. Les adultes qui nous entourent ont aussi leurs propres histoires et leurs propres carences. Dans certains cas extrêmes, comme dans des situations de maltraitance, nous allons réagir comme nous pouvons pour ne pas trop souffrir. Comme nous sommes dans l'impossibilité de nous soustraire à l'abus, nous allons parfois nous absenter intérieurement pour tenter de ne plus être affectés. Une fois adultes, on n'a plus au-dessus de soi des parents, qui menacent, frappent, hurlent ou se montrent absents ou inattentifs. Mais le pli est pris. Il est difficile de recontacter à nouveau son ressenti, son émotion. Dans d'autres cas, des humiliations, difficultés au cours de l'apprentissage, nous avons pu nous trouver dans des situations que nous avions du mal à accepter. Notre sensibilité, notre vulnérabilité, nos fragilités, notre solitude, nos impuissances, simplement parce qu'elles n'étaient pas considérées par les adultes, on a appris alors à mettre de côté tous ces sentiments, comme Oscar tout à l'heure. Il s'est retiré un petit peu. Et forcément, il ne connaît plus son corps. Et quand il lui envoie un signal, c'est la panique. En tout cas, c'est l'interprétation de la panique. Et d'ailleurs, le travail que je lui ai proposé, c'est de réattribuer ces sensations à quelque chose de naturel, comme une information. Voilà. Et cela, et parfois même pour tenir un environnement extrêmement hostile, quand nous vivons dans un environnement très hostile, plutôt que de le juger hostile, parce que nous n'avons pas forcément ce recul, et puis nous n'avons pas forcément envie, on a besoin de garder des parents au moins intérieurement comme valables, finalement, qu'est-ce qu'on fait? On va se juger, on va réviser les différents aspects de soi, pourtant essentiels, et les rejeter.
Oui, ça ne peut pas être de leur faute, donc c'est forcément la mienne.
C'est forcément la mienne. Et peut-être d'ailleurs qu'en thérapie, l'objectif, ce sera à un moment de dire, mais ça, c'est pas tout de suite, puisque je pense qu'il faut vraiment honorer tous ces aspects, c'est de dire, finalement, si c'était la faute de personne.
Oui.
Ça, c'est un peu un objectif à court ou moyen terme, mais bon, ça vient.
On frôle l'utopie.
Voilà.
Mais c'est vrai que c'est l'objectif.
Oui, parce que finalement, dans ce cas de figure, qu'est-ce qu'on fait? On devient un espèce de parent exigeant, un dictateur de soi. On n'accepte pas, par exemple, nos difficultés d'apprentissage. Je ne sais pas pour toi, mais moi, par exemple, j'ai eu de grosses difficultés à apprendre l'anglais. Et j'en suis longtemps voulu. J'avais une prof extrêmement exigeante, qui était adorable, par ailleurs. Et du coup, j'ai intégré comme je n'y arrivais pas à ce moment-là, j'étais peut-être préoccupé par plein de choses, les filles, je ne sais pas, plein de choses que je découvrais à l'adolescence. Je me suis aussi invalidé dans ma capacité d'apprentissage. Et après, ça a continué. C'est-à-dire que, heureusement pour moi, je n'ai bugué que sur l'anglais et pas sur le reste. Bon, je travaille avec l'EFT là-dessus, je finirai sûrement par apprendre l'anglais.
Et aujourd'hui, ça ne t'empêche pas de suivre des enseignements en américain, en anglais.
Oui, à partir du moment où il y a du chemin de fait, et j'arrive parfois même à comprendre ce qu'il dit sans traducteur, ça arrive. Et même à parfois à poser des questions.
Ok, alors est-ce que tu peux nous donner un exemple de ce parcours, comment on se coupe de ces sensations?
Oui, alors peut-être je vais donner un exemple clinique si tu permets. Je vais parler d'Arthur. tu es un homme de 35 ans, que je suis, sorte de grave dépression, suite à un licenciement assez violent. Il a été, je l'ai suivi une première fois, il a été hospitalisé, je l'ai resuivi. Il va mieux, mais il me fait part de sa volonté de rechercher à nouveau du travail. Et en même temps, il a très peur. Il angoisse alors qu'il entame les démarches pour cela. Au moment d'aller à la NPE, au moment de regarder sur Internet, voir ce qui se passe sur le marché du travail, il a un stress. Il a l'impression du coup d'être un feignant, car c'est difficile de se remettre pour lui dans la recherche du travail, et il a probablement de bonnes raisons pour ça. C'est ce que je vais explorer avec lui. Je connais un peu son histoire, donc je vais un petit peu résumer. Dans son enfance, ses parents ont eu des difficultés assez graves. La famille l'a disqualifié devant Arthur, ses parents. Il s'est promis de n'être pas un feignant, tout en ressentant une blessure, parce qu'il était blessé par ce rejet de ses parents, tout en ayant peur lui aussi d'être un feignant et d'être jugé et rejeté.
On a accusé ses parents d'être des feignants.
Oui, voilà, ils avaient des grosses difficultés, à la fois financières et ma foi, de santé. Et du coup, lui-même avait cette peur adulte, finalement, de ne pas être à la hauteur. C'est sûrement une peur assez rare, j'imagine.
Oui, j'en avais déjà entendu parler, oui. C'est intéressant, j'ai cet exemple-là.
Adulte, il a fait des études comme rêve de travailler pour une ONG, ce qui a été sa première bonne expérience professionnelle. Puis après, pris par la logique des recrutements et une envie de voyager, il a accepté des missions commerciales dans plein de pays, en fait, des horaires et des rôles, mais qui, ces horaires et ces rôles n'étaient pas en conformité avec son éthique. Alors, on demandait beaucoup de travail, il allait jusqu'à l'épuisement. On lui demandait parfois même de commercialiser ou de favoriser la commercialisation de produits qui n'étaient pas en accord avec son éthique, ou du moins qu'il ne jugeait pas utile aux clients à qui il devait les vendre. Donc il s'est trouvé un peu en porte-à-faux. Au bout d'un moment, évidemment, à force de faire des heures, de ne pas faire ce dont il a envie, il craque. Et, mais s'il craque, pour lui, c'est pas parce que ce qu'il fait ne lui correspond pas.
Non. C'est parce qu'il est feignant.
C'est pas non plus parce qu'on lui demande de travailler 60 heures par semaine. Samedi, dimanche, évidemment, avec l'ordinateur. Enfin, on a tous des exemples, je pense, autour de nous, de choses comme ça. Il y a de plus en plus de plaintes pour le burn-out actuellement. Bon, je ne ferai pas de commentaire là-dessus. Mais quand il m'a parlé de ses peurs, j'ai proposé une ronde EFT. Non pour lever cette peur, mais plutôt pour l'honorer. Elle est importante. Dans ce cas précis, elle est même salutaire. Son corps envoie un message d'alerte. « Ne me renvoie pas dans ce milieu mauvais pour moi. J'ai envie de fuir. » Il a raison. J'ai donc proposé une approche paradoxale. Alors, j'ai un tout petit peu décrire ce que j'ai proposé comme phrase d'introduction en tapotant sur le point qui a raté. Et puis peut-être que, on va en discuter un petit peu, si tu veux, pour un peu expliquer ce que je commence à mettre en route dans ces tapotements. Alors, je vais lui proposer, par exemple, je lui explique où est le point qui est raté, il connaît sûrement, même si j'ai de bonnes raisons de me trouver feignant, à ne pas vouloir recommencer à travailler. Franchement, j'exagère, ma famille avait bien raison de me traiter de feignant, je m'ouvre à la possibilité de m'accepter. J'introduis cette phrase, je m'ouvre à la possibilité de m'accepter, au moins elle ne crée pas de conflit, c'est pas un je m'aime, je m'accepte, et puis c'est quelque chose que j'avais appris dans les précédents congrès, jusqu'à l'an dernier notamment, et donc je l'ai utilisé, puisque toujours dans cette dynamique de partage, c'est vraiment très intéressant de pouvoir faire ça.
Là, le conflit pour Arthur était trop fort, il n'était pas prêt à dire je m'aime et je m'accepte.
Non, c'est pas possible. Et puis après, j'ai rajouté une deuxième phrase. Même si j'ai de bonnes raisons de me rejeter, car je suis incapable d'atteindre des objectifs auxquels je crois et qui sont bons pour moi et pour mes clients, je m'ouvre à la possibilité de m'accepter. Donc là, je commence un petit peu éventuellement même à lui dire des contre-vérités, des choses avec lesquelles il n'est pas forcément en accord, mais c'est quand même ce qu'il se dit et c'est quand même ce qu'il met en jeu dans ce rejet de lui-même.
Donc tu lui resserres en amplifiant son propre discours intérieur, en fait.
C'est ça. Je lui amplifie son propre discours intérieur.
Pour mettre en lumière l'absurdité de la chose.
L'absurdité, puis d'éventuels ressorts, qu'on va voir un peu après. Et après, je fais un troisième même-si en lien avec son histoire. C'est-à-dire que je fais trois même-si différents sur le point karaté. Là, j'ai mis, même si j'ai de bonnes raisons de me rejeter dans la peur du travail, c'est vrai que ma famille avait raison de disqualifier ceux qui ont des difficultés au travail. Moi aussi, je pense que les gens qui sont en arrêt de travail sont des feignants. je m'ouvre à la possibilité de m'accepter. Évidemment qu'il ne pense pas ça. Je le sais, et il le sait que je sais qu'il ne pense pas ça. Simplement, là, je mets vraiment en relief un peu ce qu'il peut se dire sur lui.
Ouais.
Et lui dire, voilà, tu ne te le dirais pas sur les autres, mais tu le dis sur toi.
Ouais.
Hein, après, pendant la ronde ST, j'ai décrit les différentes situations et les aspects et pensées dont il avait parlé pendant les séances. Je travaillais tant d'heures, j'ai accepté de faire des missions qui étaient difficiles, pénibles, j'étais épuisé le soir, j'ai même pris des risques en prenant ma voiture, tellement j'étais fatigué. Donc du coup, ce que je fais en tapotant sur les différents points d'autopression, c'est vraiment d'être très descriptif dans les faits.
Mm-hmm.
Je mets aussi les pensées, éventuellement, ce qu'on appelle les cognitions, éventuellement les émotions, parfois les sensations, mais je trouve important de consacrer au moins une ronde, hein, si vous le faites vous-même, sur les faits tels qu'ils sont, très descriptifs, c'est-à-dire je travaillais à tel endroit, je faisais tant d'heures, mon patron m'a demandé ça, j'ai vécu là un conflit. Là, on commence déjà un petit peu à être un peu plus raffiné, mais vraiment de décrire les faits, et quelque part, j'allais dire, de le balancer sur notre système énergétique, pour que lui fasse le boulot, s'il sait le faire. Hein. Mm-hmm. C'est notre corps, en fait, qui va se mobiliser et nous favoriser un dégagement émotionnel là où il y a des crispations. Et là, dans ce cas-là, en fait, rapidement, au cours de la deuxième ronde, je vais lui proposer aussi, je vais lui demander si un peu de place pour honorer sa détresse, son courage, car je l'ai vu hein, dans ces moments-là, épuisé, fatigué, qui exprimait de la souffrance, de la détresse. Et je lui dis, mais qui vous a considéré à ce moment-là? Je peux même aller jusqu'à proposer un pont avec le passé. Et peut-être qu'à ce moment-là, vous étiez tout seul, vos parents étaient hospitalisés, vous étiez tout seul dans votre chambre à entendre parfois des critiques, mais qui vous a accueilli? Et finalement, la proposition, c'est que aujourd'hui, maintenant, je m'accueille. Ça, c'est la démarche. Car le pouvoir, il est la personne d'autre. Donc c'est un petit peu une démarche qui vise à reprendre le pouvoir dans son histoire. Alors là, j'ai fait un condensé. Ça peut arriver sur une séance, parfois il faut plusieurs séances, mais on peut aussi articuler tous ces aspects hein, de nous-mêmes, de ce qu'on pense de soi. Est-ce que j'étais trop rapide ou c'est...
Non, je crois que c'est... Pour moi, c'est tout à fait logique. Que tu racontes.
Bon, d'accord.
Par contre, j'ai une question. Je voudrais savoir comment, parce que là, tu parles de paradoxe.
Mm-hmm.
Moi, je connais ça sous le terme de thérapie provocatrice.
Oui, c'est pas mal, ça.
C'est une idée de balancer des vérités qui cherchent un peu à rencontrer l'absurde.
Oui, c'est ça.
On est un peu aux limites.
Oui, tout à fait.
Alors, comment faire ça dans le cadre de la relation thérapeutique, comment tu t'y prends pour bien installer la confiance?
Eh ben, avant de
faire ce genre d'approche.
Oui, parce qu'évidemment,
lignons-le. On ne va pas forcément faire ça dans une première séance.
On ne va pas faire ça dans une première séance ni une première rencontre. Avec Arthur, je le suis depuis 2-3 ans. Je l'ai accompagné. Il a confiance en moi. J'ai confiance aussi en lui et dans ses processus. Il a beaucoup d'humour. Et très souvent, nous jouons sur ces ressorts-là. Il sait, franchement, que je ne pense pas qu'il est feignant. Je sais qu'il le sait, et je sais que, toi comme moi, si on dit à un patient qui pense quelque chose comme ça négativement, ce n'est pas vrai, et là, ça ne marche pas. Autrement, on ferait des thérapies très, très brèves. Sauf que c'est vraiment ancré en lui. Et donc, simplement en jouant sur ce paradoxe, sur cette provocation, hein, c'est vraiment plus juste. Nous favorisons une réappropriation de lui-même, c'est-à-dire qu'effectivement, il peut peut-être attribuer une autre vérité avec des faits et commencer un peu à se détacher de ce rejet de lui-même qu'il a mis en place avec de bonnes raisons, parce qu'il ne pouvait pas faire autrement.
Mais oui.
Est-ce que j'ai un petit peu expliqué c'est vraiment un chemin en fait que j'essaye de mener avec ma patientèle, c'est de toujours finalement essayer de tout mettre un peu dans une même marmite. Alors parfois on peut se faire en une seule séance, parfois c'est en plusieurs, mais c'est vrai qu'on ne peut travailler que si la personne en face de nous se sent en sécurité, se sent accueillie, si le lien est fait. autrement, je ne vais pas m'amuser à faire ce genre de choses. Je resterai éventuellement avec des protocoles très classiques pour renforcer les ressources.
On peut très bien utiliser le C de toute façon.
Oui.
Même si la confiance n'est pas encore établie, on peut très bien, moi je dirais que c'est même recommandé, de tapoter dès la première rencontre.
Oui, tout à fait. En général, je propose toujours, d'abord parce que ça permet de montrer, ça dit aussi un peu qui je suis, comment je travaille. Et puis, c'est aussi finalement l'occasion d'une conversation, puisque quand on fait une ronde de SP, on cause malgré tout.
Oui.
Donc moi, je propose un peu ce que j'ai ressenti. Et ça me permet de renvoyer, est-ce que j'ai bien compris? Et je demande à la personne de corriger, et je précise en général toujours que il y a un seul boss dans ce bureau, c'est la personne. Et qu'elle corrige, elle dit non, elle dit stop. Je vérifie si elle se sent en mesure, évidemment, de pouvoir me dire non à ce que je vais proposer. Et c'est toujours que des propositions. Voilà. Et je peux me tromper d'ailleurs.
Oui, c'est important de le rappeler.
Oui. Alors, ce qui est intéressant, d'ailleurs, avec l'EFT, c'est qu'on va vite assister, du coup, à des blocages. C'est le corps qui est sollicité, et la personne des tapotements, et c'est lui qui va nous indiquer où on en est. Dans ces cas-là, par exemple, même de la première séquence, séance de thérapie, je vais toujours demander si la personne est confortable ou non. L'objectif est qu'elle parte confortable du bureau. Toutefois, parfois, il y a quelque chose de mobilisé, que bon, c'est parfois pas si confortable que ça.
Oui.
Je pense notamment aux personnes qui sont en état de dépression. Alors là, c'est un peu particulier parce que c'est pas tout à fait la même pratique, je pense, quand on travaille en institution que quand on travaille en cabinet. Il arrive que des gens qui soient hospitalisés sont dans des états émotionnels très 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 fragilisés. Toutefois, on peut quand même commencer à travailler des choses. Et s'ils sont dans un état de tristesse, par exemple, très grand, on va travailler sur un état de tristesse en essayant de lier à des événements. Parfois, on ne les a pas. Pas tout de suite, ça prend un peu de temps. Et de façon à favoriser au moins une première psychodynamique de résolution des problèmes. Parfois aussi, il peut y avoir des traitements, il peut y avoir des tas de choses qui sont mises en route. Souvent, en général, moi, ce qui peut bloquer la pratique, c'est l'épuisement. C'est-à-dire que quelqu'un qui est épuisé, je pense que la règle, c'est déjà qu'elle se repose. Donc, dans ces cas-là, je vais plutôt favoriser cela en clinique et dans une relation avec la dépression.
Voilà. Et dans ton expérience avec des patients dépressifs, est-ce que la question a été évoquée parfois dans certains articles, certaines études? Est-ce que tu trouves que le traitement antidépresseur a une interférence avec le traitement EFT?
Alors, dans mon expérience, je dirais non. Non. Alors, parfois, il est important de prendre du temps. Comme je disais, si la personne est mal, épuisée, que le traitement commence à être mis en route, parfois il faut à peu près 3 semaines, si ma mémoire est bonne, c'est pas mon métier, mais c'est ce que m'ont dit mes collègues, à peu près 3 semaines pour essayer un traitement. On attend aussi des effets positifs du traitement. Et du coup, un petit peu, une forme de dépression aussi biologique qui s'inscrit au niveau du corps puisse être levée pour qu'on puisse commencer à travailler. Moi, la métaphore que j'emploie avec les patients qui viennent me voir, par exemple, au moment d'un premier entretien, quand ils sont hospitalisés, j'ai dit, écoutez, c'est comme si vous étiez en train d'escalader, de pédaler avec votre vélo, et que on vous demandait de monter la côte, vous savez, du Mont Ventoux.
Oui.
Où on voit les coureurs du Tour de France qui suent, etc., les pauvres, qui souffrent, et alors je leur demande, on va vous demander de pédaler, si je vous propose de faire des choses trop intenses, vous allez devoir pédaler, vous allez devoir faire des efforts, alors que la seule chose dont vous avez besoin, c'est de quitter ce vélo et de vous poser tranquillement. Donc je leur demande avant toute chose de se reposer. Alors on peut aussi causer, on peut faire d'autres choses, on peut aussi pratiquer l'EFT en mobilisant les ressources, je crois que c'est Jean-Michel Duret l'an dernier, on avait une sorte parlé, c'est ça. Voilà, c'est des choses qu'on peut faire, c'est de valoriser par exemple qu'ils sont en sécurité ici maintenant, qu'ils ont fait une démarche pour se soigner, et que ça tout le monde ne le fait pas. Honorer un peu ce courage qu'ils ont.
Oui, oui, et comme tu disais tout à l'heure, honorer aussi les sensations de culpabilité, de responsabilité qu'on peut avoir par rapport à ça.
Oui,
remettre les choses en contexte.
Remettre toujours les choses en contexte, et le contexte actuel, parce qu'on parle, on allait traiter les choses du passé, etc. Ok, on peut vraiment imaginer que la dépression est liée à plein de choses.
Ouais.
Et il y a aussi un moment présent, et le moment présent, c'est aussi parfois une espèce d'urgence à être pris en considération, ici et maintenant.
Ok, alors revenons à ce déni de soi. Comment peut-on le traiter et comment sortir de là?
Alors, même si l'EFT est un puissant facilitateur et véhicule pour se comprendre, il est nécessaire aussi de se donner du temps, comme je disais à l'instant, pour rencontrer. Dans le cas d'Arthur, qui connaît bien cette technique, nous l'avons souvent utilisé. Hein. Je reprécise ça un petit peu pour remettre bien ce contexte-là.
Ouais.
Et donc, comme tout à l'heure je disais, je peux me permettre de lui dire tout ce que je lui ai dit, parce que nous avons un lien, ouais. Un lien qui s'est créé. Pas dans une première relation, ni dans un contexte de dépression. Même si là, il est mal, il y a tout ce passé entre nous, ce passé relationnel, qui va favoriser aussi, pour lui, la possibilité d'attribuer une autre vérité sur lui-même.
Mmh.
C'est pour cela que je propose, hein, comme tout à l'heure je le disais, cette articulation entre les faits et ce que le consultant peut se dire de négatif sur lui, à propos des événements douloureux. Et dans la même phrase au cours de la ronde, d'honorer, surtout d'honorer, cette détresse, ce courage dont il a fait preuve. Parce que c'est ça que nous faisons en tant que thérapeute, hein, c'est de prendre en considération un vécu, quelque part. C'est toujours ça. Et si on prend en considération un vécu du présent, du passé, c'est déjà un premier acte. Et c'est un acte de vie. C'est-à-dire qu'il s'inscrit, il est mémorisé. C'est de la vérité. Ça peut devenir en tout cas une autre vérité.
Donc on peut ouvrir des portes, comme on disait tout à l'heure, on peut arriver à annoncer des vérités différentes, peut-être.
Oui, nous favorisons finalement une proposition de choix vers une plus grande considération de soi. Hein. C'est un petit peu ça que je voulais dire tout à l'heure. Tu as appelé ça provocation, j'aime bien ce mot-là, je te le pique. Il me plaît bien. C'est vraiment une démarche qui vise à la liberté des différentes émotions. C'est ça le mot EFT, c'est la liberté de différentes émotions. Ça ne veut pas dire les annuler, ça ne veut pas dire qu'elles sont bonnes ou mauvaises. C'est qu'elles sont là en nous et honorons-les. Alors évidemment, on n'aime pas ça toujours. Mais bon, c'est une démarche, hein, une démarche qui peut prendre un peu de temps.
Oui, voilà. Et c'est notre vérité sur le moment.
Et c'est notre vérité sur le moment.
Alors je crois que tu avais un modèle théorique à nous proposer pour illustrer un peu, enfin trouver une façon d'expliquer pourquoi le EFT marche.
Oui, parce que alors là, j'ai réfléchi, je me suis dit, si je devais expliquer à des confrères, puisque quelque part, ça, c'est vraiment ce congrès qui m'a aidé à faire ça, si je dois expliquer ce que je fais, comment je vais l'expliquer? Parce qu'après, on pourrait me dire, je travaille avec mon ressenti, avec mes habitudes, et j'ai vraiment intégré l'EFT dans ma pratique. Donc, finalement, c'est devenu comme un automatisme, aussi bien en moi, que dans mes relations,
oui,
avec les patients.
Ça devient une sorte de mode de vie, en fait.
C'est une mode de vie. Donc, ce qu'on a appris avec l'EFT, finalement, c'est un modèle théorique. Hein. Le modèle qui nous a été donné par Gary Gregg, que je trouve pertinent, en tout cas, c'est que tout problème, si ma mémoire est bonne, hein, tu vas m'aider, c'est que tout problème somatique ou psychologique est lié à un problème énergétique.
Un blocage énergétique.
Voilà. L'EFT va nous permettre de débloquer ce blocage et de favoriser, du coup, une résolution des problèmes dont on parle, donc qui sont donnés, qui sont apportés par nos clients.
On dénoue ce blocage énergétique et, du coup, la somatisation ou le problème, la peur, l'émotion,
disparaît. Et d'ailleurs, qu'on soit acupuncteur ou pas, bon, moi, en tout cas, je ne suis pas acupuncteur, donc quand j'ai j'aimais bien toute cette médecine chinoise, c'était intéressant, mais je n'ai pas le temps de faire 6 années d'études, hélas, pour le moment, pour devenir acupuncteur. Donc j'ai adhéré un peu à ce modèle. Toutefois, ce n'est pas un modèle psychologique, et je suis psychologue. Donc j'ai cherché un petit peu à me dire, qu'est-ce que moi j'observe? Parce que dans les faits, je vois que ça aide les patients. Et quelque part, le pourquoi du comment, bon, ça m'intéresse, hein, au niveau intellectuel, mais c'était pas forcément ma tasse de thé. Et finalement, pour cela, j'ai pris un modèle théorique que je vais utiliser, que je vais vous proposer rapidement. C'est un modèle intégratif qui a été développé par Jeffrey Jung et Beck, hein, qui sont des psychologues new-yorkais. L'apport majeur de Jung a été l'identification, peut-être que je donnerai d'ailleurs on donnera les références, hein, c'est ça. L'apport majeur de Jung a été l'identification des schémas précoces inadaptés et des modes et des stratégies d'adaptation. Je propose ce modèle car il continue d'illustrer mon propos de tout à l'heure sur les mécanismes de défense, en fait, mis en place. Mais il va plus loin et c'est aussi pour moi l'occasion de partager ma compréhension du pourquoi ça marche.
Mais qu'est-ce que tu entends par un schéma précoce inadapté alors ?
Alors, la définition de Jung est la suivante. Un modèle, un thème important, constitué de souvenirs, d'émotions, de pensées et de sensations corporelles concernant soi-même et les autres, constitué au cours de l'enfance et de l'adolescence, enrichi tout au long de la vie de l'individu et dysfonctionnel de façon significative. Les schémas précoces inadaptés, qui s'élaborent au cours de l'enfance et de l'adolescence, continuent à s'enrichir tout au long des expériences de la vie. Même s'ils sont inappropriés, s'ils ne servent plus à rien, ils sont même nuisibles parfois, comme nous l'avons évoqué avec Arthur. En fait, la personne adulte qui fait l'expérience de l'activation d'un de ces schémas vit cette expérience d'une façon semblable à ce qu'elle a vécu lors de l'élaboration de son schéma initial. Il est question ici de continuité cognitive, de vision stable de soi-même et du monde, même si celles-ci sont en fait imprécises et erronées.
C'est un peu comme une boule de neige qui s'est formée à partir d'un caillou ou bien d'une pépite d'or, on n'en sait rien, mais ça roule, ça roule, ça roule.
Et ça fait une espèce de condensé après. Tout à l'heure, par exemple, nous avons parlé d'Arthur et de son sentiment d'être feignant. On est d'accord que c'est une interprétation distorsionnée de la réalité. Mais c'est sa réalité. Et c'est avec ça qu'il s'est construit. Pas avec cet événement-là. Mais cet événement-là a renforcé ce schéma.
Et l'EFT, alors, qu'est-ce que ça va nous apporter?
Alors, en tapotant, nous convoquons la totalité du schéma. Les souvenirs, les émotions, les pensées et les sensations corporelles. Ce qu'on parlait tout à l'heure, le feeling. Et ainsi que les comportements. On va convoquer quelque chose de plus aussi.
L'événement initial qui a donné lieu à cette boule de neige, mais aussi tout ce qui est venu la renforcer par la suite.
Exactement. Alors, peut-être parfois en une ou plusieurs séances. Mais on peut parfois faire une espèce de condensé. Moi, j'aime bien faire ça, surtout avec quelqu'un avec qui je suis bien installé, comme on disait tout à l'heure. Bon, une première séance, j'éviterai quand même. D'accord Mais vous pouvez essayer chez vous, ma foi, mais avec douceur. Je vous invite vraiment à prendre votre temps quand même. Nous allons fusionner tous ces éléments du schéma. Nous allons aussi favoriser un climat propice à un processus psychologique dynamique. C'est-à-dire que là où il y avait de la stagnation, ça ne bougeait pas. C'était quelque chose un peu installé. Je suis feignant. Nous allons favoriser quelque chose de plus léger, plus confortable, où il y aura un autre réaménagement possible. Ça sera plus léger, moins condensé, un peu plus vivable. Est-ce que j'ai été à peu près clair?
Oui, bon. Pour moi c'est clair.
par exemple, je veux dire, en utilisant un souvenir ou un parcours de vie, en fait ce qui se passe, c'est que nous favorisons la rencontre avec tout le matériel, qui est souvent long à mobiliser dans des thérapies uniquement verbales. Ce qui ne signifie pas forcément que cette approche thérapeutique soit brève, d'accord. Là, on voit que ça peut prendre du temps quand même, parce que nous sommes pour des personnes qui ont quand même des souffrances complexes, dans lesquelles il faut vraiment prendre plusieurs choses en considération. Quand on commence à toucher ce genre de choses, c'est vraiment des comportements qui sont installés, qui sont parfois addictifs, qui sont parfois dévalorisants et qui sont installés qui interrogent vraiment plusieurs registres de notre vie. Donc, ça prend un peu de temps aussi, mais ça facilite en tout cas un confort qui peut naître. Et en plus de ça, l'avantage, c'est que la personne apprend aussi. Les patients apprennent l'EFT tout de suite. Parfois, ils ont envie de le faire eux-mêmes, parfois pas. Moi, en tout cas, ma position, c'est toujours leur dire, ne le faites que si vous avez du confort à le faire chez vous. Autrement,
c'est pas un devoir, c'est un atout supplémentaire dont ils peuvent se servir.
Voilà. Si c'est confortable pour eux, si c'est facile, qu'ils le fassent autrement. Je suis là aussi pour ça. Et voilà, on peut aussi le faire ensemble. Parce que très souvent, c'est des personnes qui ont été seules. Je vais pas leur demander de faire quelque chose toute seule chez elles. Ça serait presque ridicule quand même, on va dire. Et puis, donc je préfère, dire ok, on est deux maintenant. On partage.
Alors, quels sont les leviers possibles pour s'occuper de ce schéma précoce inadapté dont tu parles?
Alors, en fait, dans ces leviers, par exemple, on va prendre une sensation, par exemple, qui peut arriver. Par exemple, mettons, je ne sais rien, d'accord? La personne peut arriver avec une sensation ou un événement, donc là, c'est une pensée, par exemple, ou une émotion, d'accord? Donc, on va prendre un levier. On va prendre les trois, par exemple. Parfois, si on peut avoir ressenti, pensée, émotion, c'est presque un idéal, mais c'est pas un idéal nécessaire. Donc, on va prendre du coup, on va pouvoir convoquer là l'ensemble un petit peu de la pierre à l'origine éventuellement de ce qu'on en sait d'expérience dont on parlait tout à l'heure, hein, et donc favoriser un tout petit peu une dynamique, un petit peu comme si on imaginait des planètes en train de tourner autour d'un axe et qui ont capturé des astéroïdes, qui sont renforcés dans une espèce de comme tu disais tout à l'heure, une boule de neige où vraiment on ne sait que répéter, s'en mettre plein la figure et on comprend pas pourquoi, parce que quoi qu'on fasse, on a beau faire tous les efforts, dire tiens, je vais arrêter de fumer, je parle pour moi, ça marche pas, etc. Déjà, commençons par considérer un peu la détresse, hein, déjà, parce que on se valide, en tout cas nous validons ensemble, je valide la détresse de la personne, et puis aussi on va utiliser des leviers qu'on va trouver pertinents, en faisant par exemple une ronde EFT, sur même si j'ai cette sensation, comme on verra tout à l'heure, douloureuse, et que je pense de moi que, par exemple, j'étais feignant, j'ai vraiment de bonnes raisons de penser ça, je m'ouvre à la possibilité de m'accepter. On a produit déjà une petite touche, si on ne peut pas faire trop. Des fois, on convoque le schéma juste de façon très parcellaire. Hein, on peut vraiment avec douceur.
Oui, tout à fait. Ça fait partie des forces. La douceur fait partie des forces de l'esprit.
Oui, tout à fait.
Alors, justement, en introduction, tu as parlé de cette douleur que tu avais à l'épaule,
oui.
Et qui t'a permis de dégager toute une empreinte émotionnelle.
D'accord. Ce serait peut-être bien que je parle un petit peu de ça, effectivement, c'est très intéressant. Alors, je vais te parler, si tu le permets, d'une dame qui est venue, parce que je trouve que c'est vraiment intéressant pour illustrer un peu ce qu'on vient de se dire.
Mm-hmm.
Elle vient, et c'est quelqu'un elle vient à l'origine pour un burn-out professionnel, où elle a vraiment subi des choses difficiles dans son travail, on lui a beaucoup demandé, on l'a changé de département, on l'a mis dans une autre fonction, c'est une femme très très brillante, qui est très motivée dans son travail, qui est très engagée, et qu'on a un peu brimée, on lui attribuant un poste qui n'était pas le sien, en l'empêchant d'aller dans un département qui était plus concerné, comme elle a eu 4 grossesses, évidemment, les femmes savent ce que c'est, je crois qu'il y a une conférence qui a bien parlé de ça. Et donc je crois que c'est vraiment aussi important de noter que voilà, il y a tout plein de choses qui favorisent qu'elle est vraiment en dépression. Donc on a traité plusieurs éléments en fait. On a bien avancé sur son histoire, sur les difficultés à son travail, hein, qui commence un peu à s'adoucir. Et puis, sur sa relation à soi, parce que par exemple, elle était au travail, évidemment, elle aussi, c'est quelqu'un qui est très battante, donc elle s'imaginait qu'elle était faible, et on a pu simplement aussi honorer qu'elle avait besoin de se reposer, hein, 4 grossesses, beaucoup de travail, un mari qui travaille énormément, une maison à s'occuper, enfin, voilà. Plein de choses qui ont émergé et qui ont été finalement interrogées par cette dépression qui tombait peut-être à point, pour qu'elle prenne un peu de temps pour elle.
Oui, qui était une fois de plus un signal d'alerte utile et nécessaire à ce moment-là.
Voilà.
Même si il n'était pas spécialement agréable et bienvenu pour elle.
Et qu'elle le ressentait bien passé,
oui.
Même si elle commence un peu à capter, à comprendre ce qui s'est passé là.
Oui.